Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux, et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Alors les versets, hein, vous pourrez relire chez vous si vous voulez, qui précèdent ce moment, sont ces moments extraordinaires, ces versets qui nous parlent de la mer Rouge qui s'ouvre, qui nous parlent de ce cantique interprété par Myriam et puis ces femmes qui chantent et qui dansent, la délivrance du peuple d'Israël de la main des Égyptiens. C'est cette mer Rouge ensuite qui va se refermer, hein, sur toute l'armée de Pharaon. Et c'est un temps de fête, c'est un temps d'euphorie, bien sûr, bien compréhensible pour le peuple. Et puis, après ce temps de fête, ce temps d'euphorie, eh bien, arrive la réalité du quotidien qui va reprendre ses droits, puisqu'il faut désormais sortir d'Égypte et puis être conduit par le Seigneur là où il veut mener son peuple. Et après 3 jours de marche, dans le désert, eh bien, ce peuple va être assoiffé, bien sûr, on peut le comprendre, et il va être rapidement confronté à l'amertume. Alors, l'amertume, bien sûr, d'une eau qui est imbuvable, mais aussi, en même temps, l'amertume de leur âme, hein, face à cette situation qui va se révéler également, bien sûr, amère. Et on va parler quelques instants ce matin bien de ce sentiment qui peut tous nous gagner à un moment donné ou à un autre. Hein, c'est ce sentiment, bien sûr, d'amertume. C'est un moment qui peut arriver très, très rapidement et qui va se propager peut-être parfois très, très profondément en quelques instants. D'abord, d'une manière physique, on a toujours été un jour peut-être surpris ou victime d'une mauvaise blague, d'une mauvaise farce. Hein. On a voulu goûter quelque chose, on a présenté ça comme une sucrerie ou une douceur, et puis c'était quelque chose, c'était un chou à la crème qui était fourré avec je ne sais pas quoi, de la harissa ou autre chose, ou un goût amer. Et tout de suite, alors bien sûr, gourmand que nous sommes, nous l'avons pris en pleine bouche, et aussitôt la grimace s'est faite, il y a eu peut-être même des rejets. Hein, lorsque on a eu on a des enfants, parfois c'est un petit peu l'expression, hein, quand on change d'aliments, des pots pour bébés, il y a des grimaces, il semble que ce soit amer, et ça se voit tout de suite, instantanément. Et puis, bien sûr, eh bien, au niveau de notre âme, il y a aussi eh bien, des réactions. Et ce matin, on va parler de quelques raisons de l'amertume, pourquoi ça peut monter rapidement. On verra également des expressions de l'amertume, comment cette amertume se manifeste-t-elle. Et puis surtout, nous voulons eh bien, apprendre comment gérer cette amertume. Et on verra d'autres textes hein, ce matin qui vont nous parler de l'amertume. Alors ici, les raisons de l'amertume. L'amertume, vous le savez, c'est un sentiment qui est durable et qui peut mélanger, alors suivant les proportions, hein, ça dépend des situations, on en verra quelques-unes, mais qui peut mélanger tristesse et rancœur. Voilà. Alors à dosage, j'allais dire, différent. Mais en tout cas, c'est un sentiment qui est durable, qui va s'installer et qui va pouvoir ainsi mélanger, conjuguer tristesse et puis rancœur. Ici, quelle est la raison de l'amertume de ce peuple? Eh bien, j'ai noté ceci. Pour moi, il y a une immaturité spirituelle et en fait qui se manifeste, qui se traduit ici par la prise de pouvoir des émotions, des sentiments sur la foi. C'est une prise de pouvoir, une prise d'otage par les sentiments, par les émotions, sur la foi. De quelle manière, bien sûr, le peuple est encore dans l'euphorie de ce moment. Et il va vivre des choses extraordinaires. Hein. C'est cette manière dont il va être délivré. Il y a des temps difficiles, il y a eu ces 10 plaies, etc. On connaît, mais arrive la délivrance. Et le peuple, bien sûr, eh bien, reconnaît, c'est gravé dans leur cœur, le passage de la mer Rouge, etc., ce cantique de Myriam. Et ils reconnaissent ce que Dieu a fait dans un moment d'enthousiasme, de liesse formidable, etc. Mais on pourrait dire que leur enthousiasme, leur euphorie va rester au niveau émotionnel, au niveau sentimental, plus que spirituel. D'ailleurs, il suffit de 3 journées de marche pour que les sentiments soient mis en lumière. Et cette euphorie, c'est bien fait que Dieu reste simplement émotionnel, sentimentaux, mais il n'y a pas encore cette maturité spirituelle. Et ainsi, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, leurs émotions, vont guider leurs réactions, vont guider leurs actions plus que leur foi pour l'instant. Qui est encore bien naissante, c'est ce qu'on appelle, en psychologie, vous savez, l'ascenseur émotionnel, qui fonctionne ici à plein régime. Et oui, l'enthousiasme du départ, ils partent, ils ont même de l'or, les Égyptiens leur ont donné de l'or, de l'argent, vous vous rendez compte, la vaisselle avec laquelle ils vont partir, hein, c'est extraordinaire. Et c'est l'enthousiasme, Dieu est avec nous, regardez les Égyptiens, et puis l'armée de Pharaon est dans la mer Rouge. Et puis, au fur et à mesure de la marche, après la mer Rouge, les réserves d'eau vont s'épuiser. Ils ont pris bien sûr quelques réserves, mais au fur et à mesure, ça commence à s'épuiser. Et là, l'inquiétude va commencer à grandir. L'inquiétude, et puis, enfin une source d'eau. Alors là, Dieu est avec nous, c'est sûr, Dieu est avec nous. Et puis, l'eau est imbuvable. L'eau est imbuvable, c'est l'amertume qui s'installe et qui va s'exprimer. C'est l'amertume qui va s'installer et qui va s'exprimer. Le proverbe 4:23 nous dit quelque chose, et je l'ai relu à nouveau dans le contexte de l'amertume. Il est dit ceci, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie. « Écarte ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » On est tous pétris ce matin de la même humanité. Nous le savons. On a tous ces sentiments, ces émotions en nous qui peuvent nous gagner en quelques instants, en quelques secondes. Il ne faut pas grand-chose parfois. Et ces sentiments, eh bien, ces émotions peuvent se transformer en des sentiments qui peuvent nous piéger. Les émotions, ben, on les connaît tous. Hein, c'est la peur, la joie, la tristesse, le dégoût, la surprise, la colère. Mais toutes ces émotions peuvent se transformer alors en amour, en angoisse, en compassion, en haine, en bonheur, en amertume. Et garder son cœur parce qu'il est les sources de la vie, c'est éviter que nos émotions, que nos sentiments prennent autorité sur notre foi, qu'ils prennent en otage notre foi, qu'ils dirigent notre vie spirituelle et que ces émotions qui demeurent bien sûr bien ce qu'on est, notre personnalité, eh bien, régissent et nous tyrannisent quelque part. Et voilà pourquoi j'ai parlé d'immaturité spirituelle pour ce peuple, parce que, eh bien, il s'est laissé piéger par ses sentiments, par ses émotions, au détriment de leur foi. Et ça peut être une raison de l'amertume qui parfois gagne nos cœurs. On va voir 2 exemples complémentaires. Le premier, c'est celui de Naomi. Et on trouve dans Ruth, eh bien, ces quelques versets pour nous rappeler ce que cette femme va traverser et quelle est l'origine à elle de son amertume et qui est quand même, je le souligne, différente de ce peuple que l'on vient de quitter. Alors, dans Ruth, et au chapitre 1 à 19, voilà ce qu'il est dit. « Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. » Il y a ces 2 belles filles avec elles. « Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut elles firent ensemble le voyage, ouais, je crois qu'il n'y a plus que, comment il s'appelle, Ruth, et puis, Ruth, voilà, il n'y a plus que Ruth. Hein. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Quelle déclaration, on y reviendra tout à l'heure. Quelle déclaration qui est terrible, la cause de l'amertume, nous la connaissons ici, eh bien, c'est un drame épouvantable que cette femme va vivre, elle va perdre son époux, elle va perdre ses deux fils, et finalement, elle va perdre tout ce qui fait sa vie. Tout ce qui fait sa vie, toute sa raison d'être disparaît en un instant. Tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a construit, eh bien, s'effondre par ces drames terribles, son époux et puis ses deux enfants. On peut imaginer un petit peu le drame intense, profond qu'elle vit, et une grande détresse, une profonde détresse remplit son cœur. Et c'est dans ce domaine qu'on peut dire que vraiment, bien Naomi, oui, elle est remplie d'amertume parce que la tristesse, le désespoir, il n'y a plus d'avenir pour elle, etc. Tout se ferme en un instant. Et dans ces moments terribles, eh bien, Naomi nous le rappelle, son cœur est rempli d'amertume. C'est aussi l'expérience de Job, c'est aussi l'expérience de Jérémie. Et c'est peut-être l'expérience de quelqu'un ce matin, là aussi, qui, à cause d'une situation dramatique, familiale, eh bien, vit cette amertume. C'est pas tellement qu'il y ait de la rancœur, c'est plutôt qu'il y ait une tristesse, un désespoir profond à cause d'un drame familial. Job 7, 11. « Je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » C'est Job hein, qui déclare ces choses. Et puis Jérémie, dans ses Lamentations 3, 19, « Souviens-toi de ma détresse, de ma misère, de l'absinthe et du poison. Hein, » L'absinthe est amère. Un autre proverbe, c'est ce que le proverbe 5, 4 nous rappelle, mais c'est aussi l'histoire de l'absinthe. Hein. On dit que l'absinthe, il faut la prendre avec un sucre pour casser cette amertume. Et Jérémie dit, moi, je m'en souviens bien, et puis je sombre. Et puis je sombre. Et ce matin, bien, nos cœurs peuvent parfois être remplis d'amertume à cause d'un drame, de quelque chose de profond qui s'est passé et qui nous rend amers, qui nous rend tristes, qui nous rend désespérés parce que bien, nous vivons ce drame familial. Et puis, le deuxième exemple, c'est celui d'Anne. Anne, dans 1 Samuel 1, 4, 10, hein, là aussi, en principe, qui va s'afficher, eh bien, nous rappelle la source, les sources, ou en tout cas la source principale de l'amertume d'Anne. L'arche fut Dieu, la défaite fut très grande. C'est 1 Samuel 4, 10. Ah oui, t'as mis 1 Samuel. Donc c'est moi qui me suis trompé. C'est 1 Samuel 1, 4, 10. Et je vous le lis. Ça, c'est de ma faute, je confesse, hein, que c'est moi qui ai mal communiqué. 1 Samuel 1, 4, 10, voilà ce qu'il est dit. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina, à tous les fils, à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. C'est terrible, hein, cette humiliation, cette méchanceté pour que Anne s'irrite contre l'Éternel. La pousser à bout pour s'irriter contre l'Éternel. Et Pénina la provoquait de la même manière chaque année. Alors elle pleurait, elle ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, mais Anne, pourquoi pleures-tu? Tu ne manges pas. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je n'ai pas pour toi mieux que des fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, elle pleura abondamment. L'amertume dans l'âme. Ici, cette amertume vient d'une humiliation constante, quotidienne, répétitive. Anne est humiliée constamment. Elle est blessée d'abord dans sa féminité, dans son identité. Dieu l'a rendue stérile. Et en plus de ça, bien Pénina la mortifie régulièrement. Les naissances qui arrivent ne font qu'accroître sa douleur, son amertume. Et puis on pourrait dire triple peine. Hein, son mari qui est à côté ne la comprend pas. Il essaye un petit peu, mais tu sais, je ne vaux pas pour toi mieux que des fils. Mais il n'arrive pas à percer l'amertume de son épouse. Et ainsi, bien Anne est humiliée, une grande détresse. Elle se culpabilise peut-être certainement aussi, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait, etc. Une immense détresse, un sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Et tout cela, bien, j'allais dire, forge cette amertume et puis la fixe dans le cœur de Anne. Anne vit régulièrement, quotidiennement, ses humiliations et son cœur, bien sûr, est affecté. Alors, on pourrait être amer pour d'autres raisons hein, ce matin, parce qu'on est déçu, parce qu'on est frustré, parce qu'on a vécu un échec, peut-être qu'on est jaloux, etc., ou on est nourri par d'autres sentiments. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'amertume se répand lentement, mais sûrement, dans toutes les parties de notre vie. Dans toutes les parties de notre vie, et puis elle fait son œuvre. Le cœur rempli d'amertume. C'est l'amertume dans l'âme, c'est ce qu'on pourrait dire ce matin. Dernièrement, j'ai passé un examen cardiaque. Alors, il y a des nouveaux examens où on essaie de déterminer ce qu'on appelle le score calcique. Savoir si dans les artères, on a un petit peu de graisse. Alors, on passe sous un scanner, c'est très, très rapide. Et puis là, ensuite, on voit si on a des plaques dans les artères. Et on sait très bien que... plus on a de plaques dans les artères, plus ça va poser un problème. Plus ça va poser un problème pour le cœur, etc. Et c'est l'image qu'on pourrait avoir ce matin. Avons-nous dans notre cœur quelques plaques d'amertume qui, si elles ne sont pas traitées, risquent de nous poser quand même quelques soucis. Et le but de Dieu, eh bien, c'est de gérer ces plaques d'amertume dans nos artères, dans notre cœur. Alors, quels sont les effets de l'amertume? Comment ça se manifeste? Quelles sont les expressions de l'amertume? Eh bien, pour le peuple, d'abord, cette amertume va transformer la perception de Dieu. Pour le peuple hébreu, bien, il est clair que Dieu n'est plus au contrôle. Il nous fait sortir d'Égypte, il ouvre la mer Rouge, les Égyptiens meurent lorsque la mer Rouge se referme, etc. Il nous conduit à travers le désert, et puis là, il nous fait trois journées de marche, et on arrive à un cours d'eau, enfin, à un étang qui est amer. Dieu n'est plus au contrôle. Dieu peut-être nous a même abandonnés. Et l'amertume va transformer leur perception de Dieu, de sa bonté, de son plan, de son salut, de sa miséricorde, de sa grâce. Et on sait que quelque temps plus tard, cette amertume ne va pas les quitter maintenant, puisque quelque temps plus tard, on a l'impression que cette amertume va rester là, peut-être même augmenter. Quelque temps plus tard, dans Nombre 11, « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux. » Bon, ça ferait un bon petit repas sympathique. Hein. Mais le problème, c'est que finalement, ils regrettent leur condition d'esclaves. L'amertume a transformé leur perception qu'ils ont de Dieu. Et ça, c'est terrible. Et il y a un danger dans nos vies, c'est quand l'amertume nous fait regretter notre vie passée. Ça, c'est un gros, gros voyant rouge. Quand nous commençons à regretter un petit peu notre vie passée, en tout cas certains aspects, peut-être pas tout, il y a un danger. Il y a un voyant rouge qui s'allume, il y a attention. Le Seigneur nous avertit de cette manière. Et puis, j'ai noté aussi, elle infecte notre relation avec les autres. Elle infecte notre relation avec les autres. Le peuple va murmurer contre Moïse. Voilà, c'est lui qui va prendre. C'est Moïse. Souvent, c'est un petit peu quand on est dans un magasin, sur qui on se décharge quand on arrive à la caisse, c'est la pauvre hôtesse de caisse qui est là, parce que les prix ne sont pas mis, parce qu'il y a une promotion qui n'a pas été enregistrée, et la pauvre caissière, elle n'y est pour rien. Mais c'est sur elle, bien sûr, qu'on va se décharger, alors qu'elle n'y est vraiment pour rien. Et le peuple va murmurer contre Moïse. L'amertume ici s'exprime par leurs propos, dans leur état d'esprit. Là, il y a de la rancœur. Là, il y a de la colère. Il y a de la colère contre Moïse, bien sûr. Et c'est lui qui va en vivre les conséquences. Et donc, l'amertume, lorsqu'elle s'installe en nous, bien, elle infecte et elle affecte aussi notre relation avec les autres. Pour Naomi, si on reprend le texte, et on l'a lu tout à l'heure, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que Naomi dit ceci, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. » L'amertume fait changer d'identité. C'est quelque chose quand même, pour nous, d'une réflexion profonde. Elle nous fait changer, ce n'est plus la même femme. Et on peut le comprendre d'un point de vue humain, bien sûr, suite à ces trois deuils, elle ne s'habille plus pareil, elle ne mange pratiquement plus, elle n'a plus d'espérance. Naomi, vous savez ce que ça veut dire, Naomi? Ça veut dire mon plaisir, ça veut dire aimable, ça veut dire agréable, ça veut dire gracieuse. Et elle a dit, ne l'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, appelez-moi amère. Et quand on est amer, eh bien, on change d'identité. Je ne dis pas qu'on a un dédoublement de personnalité, mais on change d'identité. On change d'identité parce que bien, notre cœur est rempli d'amertume et on ne se comporte plus comme avant. Nos propos sont différents, notre vision de Dieu est différente, nos relations avec les autres sont différentes parce que l'amertume nous fait changer d'identité. On ne s'appelle plus Naomi, mon plaisir, aimable, agréable, gracieuse, plaisance, mais on s'appelle d'une autre manière parce que bien, cette amertume est là. Et puis, on en reparlera aussi, l'amertume l'entraîne à s'isoler. Alors, on verra la totalité de cette réalité, mais quand même, elle cherche à s'isoler. Elle ne veut plus être avec ses belles filles, elle veut retourner, etc. Et l'amertume nous fait nous replier, bien sûr, sur nous-mêmes. Et puis Anne, on va dire, c'est le pendant également, Anne pleure et ne mange pas. L'amertume affecte aussi son moral, son corps qui en subit les conséquences. Et on a tous vécu ça, hein, à un moment donné ou à un autre, parce qu'on est travaillé à l'intérieur, parce qu'on n'a plus envie de manger. Et puis j'ai regardé quelques conséquences médicales. Eh bien, l'amertume peut conduire à la dépression, aux troubles anxieux, aux problèmes de l'estomac, aux troubles du sommeil, etc. etc. Et tout cela, ce sont des conséquences, on va dire, normales, hein, de l'amertume lorsqu'elle s'installe dans nos vies. Alors, il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Jésus-Christ et notre Dieu bien, veulent nous aider à gérer notre amertume. Parce que, de toute manière, à un moment donné ou à un autre, on y passe tous. Et peut-être que quelque part, ce matin, le Seigneur va nous aider à faire un scanner de nos artères dans cette semaine, dans ce mois, et puis de nous placer devant Dieu. Seigneur, y a-t-il encore dans mon cœur quelques plaques d'amertume? Y a-t-il encore du ressentiment? Y a-t-il du désespoir? Y a-t-il une grande tristesse? Et toutes ces plaques, eh bien, le Seigneur veut nous les montrer pour nous aider à les gérer et à les faire disparaître. Il y a une approche spirituelle, c'est la part de Dieu. Et puis il y a aussi une approche personnelle, c'est la part de l'homme. Alors l'approche spirituelle, eh bien, c'est notre texte d'Exode 15 qui nous le rappelle, hein, au verset 25, qui nous est dit que Dieu va indiquer à Moïse un bois que Moïse va lancer donc dans ce lac, dans ce réservoir d'eau, etc. Et l'amertume va être changée en douceur. L'amertume va être changée en douceur. Ce bois désigné par Dieu, les spécialistes de la Bible essayent un petit peu de savoir quelle est cette sorte de bois, comme s'il y avait un pouvoir. Hein, c'est la même chose quand Élisée arrive dans une ville où on lui dit mais le séjour de cette ville est mauvais parce que la source eh bien est polluée. Et là, il nous est dit que Élisée va demander de jeter simplement du sel, voilà, pour purifier. Alors, on pourrait dire, ah ben, c'est une composition chimique, c'était le bois qui a agi. Il y a un mystère de Dieu. Il y a un mystère de Dieu. Il y a une autorité, il y a une parole de Dieu, bien sûr, qui va accompagner ce geste. Mais surtout pour nous, ce matin, eh bien, ce bois, vous le savez, c'est l'expression de l'œuvre de la croix. C'est la révélation de ce que Christ va accomplir pour chacun d'entre nous des siècles plus tard, qui va transformer des millions et des millions de vies amères, eh bien, des vies pécheresses en des vies douces, comblées, pardonnées par la grâce de Dieu. Amen. Et ça, pour nous, ce matin, c'est l'approche incontournable. Si notre cœur est amer, il y a un bois sur lequel Christ a donné sa vie pour que notre amertume soit transformée en douceur. Dieu nous donne en Jésus-Christ ce matin eh bien, de traiter l'amertume. Hein, il y a des stations aussi de traitement des eaux, hein, alors, etc. Et là, eh bien, pour nous ce matin, eh bien, Dieu veut traiter notre amertume s'il y en a, pour purifier nos cœurs. Pour que nos émotions, pour que nos sentiments ne s'installent pas, ne nous tyrannisent pas, ne nous rendent pas esclaves, mais que la foi continue à triompher, que la foi continue à surmonter, et que même si nous sommes éprouvés, même si nous avons subi l'injustice, même si nous sommes humiliés, et je sais que ce n'est pas agréable, eh bien nous puissions dépasser ce stade et dire « Seigneur, eh bien, purifie mon cœur. Transforme mon amertume en douceur. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne veux pas vivre. Je ne veux pas vivre ce sentiment qui va s'installer. Il y a un bel exemple, enfin, il y en a plusieurs, mais c'est celui de Pierre. Matthieu 26, 75. Le coq chante. Pierre se souvient alors de ce que Jésus avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Il sortit et il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Là, il pleure sur lui-même, sur sa condition, sur ce qu'il a pu dire, etc., etc. Que va-t-il se passer ensuite pour Pierre? Va-t-il rester tout le temps dans son amertume jusqu'à la fin de ses jours? Est-ce que Jésus va le laisser ainsi? Ah, il y a une bonne nouvelle, hein. C'est que l'amertume due à son reniement, eh bien, Christ va s'en occuper. Nous le savons. La culpabilité certainement va venir à l'accompagner en plus. Mais tout cela, Jésus va s'en occuper. Alléluia. Jésus va s'occuper de l'amertume de Pierre, comme il veut s'occuper de notre amertume ce matin. Et tout ce qui peut aller avec, il va le libérer, il va le restaurer, il va le pardonner, il va réintégrer Pierre dans son service. Il va pulvériser l'amertume. Il va pulvériser l'amertume, le libérer de sa culpabilité et puis lui permettre de renouer avec le ministère. Quelle grâce! Il y a une solution spirituelle ce matin pour l'amertume qui commence peut-être à se déposer sur les artères de notre cœur spirituel. Eh bien, il y a l'œuvre de la croix, il y a l'œuvre de Jésus. Et je lisais justement dans le traitement de l'amertume, alors c'était sur un site médical, je ne sais pas si celui qui a écrit était chrétien, mais il a dit aussi dans le traitement, eh bien, il ne parlait pas de la croix, mais il disait « pardonnez ». Il faut pardonner. Il faut pardonner. Voilà, je ne sais pas si ce spécialiste était chrétien, mais le pardon faisait partie de la thérapie. Pour que l'amertume, là aussi, on peut tous être blessés, on peut tous être humiliés, on peut tous, etc. Mais si c'est le cas ce matin, pardonnons. Pardonnons, pardonnons de tout notre cœur. Seigneur, pardonne, bénis, fais grâce, Seigneur. Oui, j'ai été blessé, j'ai été humilié, mais Seigneur, je veux pardonner afin que l'amertume, parce que je vais vous dire quelque chose, parfois, ceux qui nous ont humiliés, soit ils ne s'en rendent pas compte, soit, excusez-moi, ils ne s'en portent pas plus mal. Ça les dérange. Ils continuent leur vie comme cela. Hein, je pense parfois à des gens qui ne connaissent pas Christ, ce soit au travail, que ce soit dans le quartier, etc. Ils vous disent quelque chose, et puis eux, ils continuent leur vie, ça ne les bloque pas, hein, ça ne les dérange pas. Mais c'est nous qui avons quelques soucis après d'amertume et qui commençons à souffrir. Alors, pardonnons, bénissons, ça fait partie de l'œuvre de la croix. Ça fait partie de l'œuvre de la croix. Et ce matin, comme Christ a pardonné à Pierre, comme Christ l'a restauré, eh bien, il nous pardonne. Seigneur, oui, j'ai de l'amertume, j'ai du ressentiment. Ou alors, il y a une grande tristesse. Seigneur, je viens à toi et puis montre-moi. Et s'il faut pardonner, eh bien, je pardonne, j'accorde ce pardon. Et puis, je libère, je te laisse exploser, hein, ces traces d'amertume sur mon cœur. Il console, il pardonne, il restaure. Amen. Jésus a traité le problème de l'amertume à la croix du calvaire. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Et puis, il y a une approche personnelle. Il y a aussi la part de chacun. Il y a la part de Dieu et la part de chacun. Celle de Naomi, par exemple. Eh bien, malgré son amertume, même si Naomi voulait se séparer de ses deux belles-filles, non pas parce qu'elle ne les aimait pas, mais parce que justement, elle voulait qu'elles refassent leur vie sans elle, il y a quelque chose qui est sous-jacent dans cette attitude, c'est que Naomi désire malgré tout le meilleur pour ses belles-filles. Elle ne veut pas les prendre en otage dans les filets de son amertume. Elle va limiter son amertume, j'allais dire, à sa propre personne. Elle ne veut pas que cette amertume déborde et puis infecte Ruth et puis Orpé. Elle ne veut pas, mais Naomi va justement circonscrire cette amertume à sa propre personne. Elle ne veut pas les prendre en otage dans les filets de l'amertume. Hébreux 13,15 nous dit ceci, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Hein, » Que Dieu nous aide aussi à ne pas prendre en otage dans les filets de notre amertume ceux qui nous entourent, ceux qui n'ont rien à voir, et de leur faire subir notre amertume, mais que Dieu nous aide aussi, comme Naomi, à faire notre part, à « Seigneur, aide-moi ». Si je suis encore amer, D'abord, je te demande de m'en délivrer. Et puis, si ça prend un certain temps, je ne veux pas que cela gagne, que cela se propage. Naomi n'a surtout pas voulu que ses deux belles filles, eh bien, vivent dans son amertume et puis qu'elles s'entretiennent et puis qu'on y revienne, etc. Au contraire, elle a cherché à ce qu'elles s'épanouissent, qu'elles refassent leur vie et qu'elles puissent, elles aussi, continuer à vivre, même sans Naomi. Et finalement, eh bien, Naomi a été une mamie comblée. Hein, n'oublions pas quand même la fin de la vie de Naomi. On sait que Ruth va se marier, hein, qu'elle va donner, bien sûr, naissance. Et puis, il est dit que finalement, bien, la naissance de ce petit-fils, il deviendra, alors suivez bien, le petit-fils de Naomi va devenir le grand-père de David. Vous ferez le calcul vous-même, savoir il y a combien de générations. Hein. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est la lignée à laquelle appartiendra, 1000 ans plus tard, un certain Joseph, époux de Marie, qui donnera naissance à Jésus-Christ. Imaginez qu'à ce moment-là, dans la vie de Ruth, eh bien, Ruth ait enfermé ses deux belles-filles dans son amertume et qu'elle les ait pris au piège. Eh bien, il n'y aurait jamais eu cette rencontre entre Ruth et puis Naomi n'aurait jamais été grand-mère. Et puis toute la lignée qui descend, bien, finalement. Mais parce que Naomi, là aussi, a fait sa part, eh bien, Dieu lui a fait grâce. Amen. Elle n'a pas voulu prendre en otage ses deux belles-filles. Et puis, on termine avec Anne. Anne va faire sa part également. Elle va choisir. Alors, vous me direz, elle va choisir parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Donc, quelque part, elle va être obligée, mais en tout cas, elle va le faire. Elle va répandre son amertume devant Dieu. Elle va répandre son amertume devant Dieu. Face à la méchanceté de Pénina, il n'y avait pas de possibilité de dialogue. Elle a peut-être essayé une fois, deux fois, mais il y a parfois des relations, excusez-moi, qui sont toxiques. Et malgré toute notre bonne volonté, on ne peut pas. C'est bloqué. Ce n'est pas de notre faute, c'est bloqué. Je pense qu'Anne a essayé, mais c'était bloqué. Et puis, avec son mari qui aurait pu la comprendre, là aussi, le mari ne comprend pas. Bon, ça c'est pour les dames. Hein. Je sais que souvent les maris ne vous comprennent pas. Mais messieurs, je sais que souvent vos épouses ne vous comprennent pas non plus. Hein. Donc on va faire l'équilibre. C'est bientôt la fête des pères et la fête des mères, donc on équilibre tout ça. Voilà, donc... voilà, mais oui, bon, on a des vies de couple et on sait comment que ça se passe. Et parfois, le plus proche ou la plus proche de nous, qui serait à même de nous aider, ne nous comprend pas. Ne nous comprend pas. C'est incompréhensible quand même, hein, mais c'est comme ça. Et il y a des situations où on est seul. Où on est seul dans nos sentiments, dans nos émotions, etc. Eh bien, c'est là que Dieu nous attend. C'est là que dit Seigneur, écoute, même mon mari ne me comprend pas, même ma femme ne me comprend pas, alors je répands devant toi. Alors, c'est mon amertume, mais c'est ma prière. C'est, voilà, Seigneur, je répands devant toi. C'est vrai qu'elle n'avait pas d'autre choix, mais elle l'a fait, elle s'est confiée en l'Éternel. C'est Philippiens 4, hein, versets 5 à 8, qui nous rappelle ce texte de Philippiens 4, versets 5 à 8. Que votre douceur, pas que votre amertume soit connue de tous les hommes, hein, mais que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières. Oui, des supplications. Anne, elle répand son âme, elle est profondément humiliée, elle pleure, etc., par des supplications avec actions de grâce. Et la suite est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alors, oui, ce matin, nous avons peut-être quelques sujets d'amertume. Eh bien, approchons-nous du trône de la grâce, de l'œuvre de la croix. Faisons notre part, là aussi. Et puis, répandons notre cœur devant le Seigneur. Conclusion, Exode 15, 27. Conclusion, après Mara, eh bien, il y a Élim. Il y a Élim. Alors, on en parlera hein, mardi soir de la suite, mais j'aimerais juste avec Élim, Exode 15, 27, nous rappeler donc un dernier psaume. Je crois que je l'avais noté. Alors, Exode 15, 27, peut-être la fin. Voilà. Mais heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Et la suite nous dit ceci, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est pas ainsi des méchants, etc. etc. » Élim, ça veut dire « arbre », ça veut dire « palmier ». On en reparlera un peu plus en détail ce mardi. Mais là, il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers, et il est dit que le peuple de Dieu va camper là, près de l'eau. C'est plus de l'eau amère. Hein, c'est cette source de vie. Et Étienne nous le rappelait tout à l'heure dans ce psaume, eh bien, Dieu est notre source de vie. Amen. Et si ce matin, eh bien, il y a un bois pour transformer notre amertume en douceur, il y a également eh bien, ces sources, cette source qui est en Jésus-Christ et qui fait de nous comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Même dans notre vieillesse, nous donnons encore du fruit. Et ce matin, eh bien, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Amen. Que notre amertume soit changée en une source de douceur, non seulement pour nous-mêmes, mais bien sûr pour celles et ceux qui nous entourent. Il y a des millions et des millions de personnes autour de nous et qui ont besoin d'une source d'eau vive, qui n'ont pas besoin d'une source amère, il y en a assez dans le monde, qui n'ont pas besoin d'une source polluée, il y en a assez dans le monde, qui n'ont pas besoin d'une source crevassée, il y en a assez dans le monde, mais qui ont besoin d'une source claire, d'eau pure, celle qui vient de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu nous fasse grâce ce matin et qu'on puisse vraiment le bénir. Seigneur, si ce matin mon cœur est amer, il y a une solution. Hein, je veux venir en ta présence, il y a l'œuvre de la croix, et puis montre-moi, afin que je reste, que je demeure une source potable. Amen. Dans mes paroles, dans mon comportement. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin, parce que tu es notre source d'eau vive. Nous voulons déclarer que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et nous voulons confesser, Seigneur, ce matin, nos amertumes, nos plaques d'amertume, Seigneur, dans nos artères spirituelles qui se collent, qui se plaquent, et si nous ne faisons pas attention, qui peuvent provoquer de graves dysfonctionnements. Te demandons pardon, Seigneur, ce matin, pour tous ces moments où nous nous sommes complets dans notre amertume. On l'a ressassée, on l'a propagée, on l'a communiquée. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, au contraire, maintenant, à pouvoir nous approcher de toi. S'il nous faut pardonner, nous voulons pardonner. S'il nous faut bénir par-dessus, nous voulons bénir par-dessus. S'il nous faut accorder ta grâce, nous voulons accorder ta grâce. S'il nous faut, Seigneur, nous limiter à notre propre cœur pour ne pas répandre, eh bien, apprends-nous à mettre des limites à notre amertume. S'il nous faut répandre encore pendant cette semaine notre cœur devant toi parce que telle ou telle situation est encore douloureuse, alors aide-nous à répandre, Seigneur, notre âme devant toi pour que cette amertume soit disloquée, soit détruite dans le nom de Jésus. Et que notre cœur, Seigneur, soit purifié, soit lavé par l'eau de ta parole. Ah, Seigneur, merci, parce que tu nous donnes des moyens pour gérer notre amertume. Nous ne sommes pas obligés d'en subir la tyrannie. Nous ne sommes pas obligés, Seigneur, qu'elle verrouille nos émotions pour supplanter notre foi. Mais ce matin, nous l'avons chanté, Dieu est bon en tout temps. Amen. Et c'est ce que nous voulons encore proclamer ce matin dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et une bonne nouvelle, le temps de la Sainte Cène, c'est un bon moment pour nous décharger de notre amertume. Amen, c'est un bon moment pour que ce matin, nous puissions dire, Seigneur, eh bien, voilà, je suis devant toi, je prends le pain, je prends le vin, Seigneur, alors viens maintenant, eh bien, et purifier, éclaircir mon âme, afin que je ressorte de ces moments, eh bien, comme ce peuple assis à Élim, près des sources d'eau, hein, près de l'eau qui vient de toi. Amen. On pourrait prendre quelques instants justement autour de la Sainte Cène ce matin encore pour bénir le Seigneur. On va se lever, nous qui sommes baptisés par immersion, pour nous introduire dans ce temps. Jérémie va nous partager une lecture et puis spontanément, peut-être un autre frère, une autre sœur, deux autres frères, je ne sais pas, hein, pour en venir aussi sur le devant avec Jérémie, eh bien pour partager ce temps de Sainte Cène avec nous. Et puis si dans ce temps de Sainte Cène, vous voulez élever votre voix vers le Seigneur, eh bien faites-le. Hein, si vous avez aussi reçu un don spirituel, eh bien prenons ce temps aussi hein, pour être à l'écoute du Seigneur. Amen. Voilà. On va laisser... Hein, tu peux venir ici, Jérémie, hein, si tu veux. Le micro apparemment fonctionne. Voilà. Hein, s'il y a deux autres bien-aimés qui veulent s'approcher de la table du Seigneur, et puis on va se lever.
Merci Didier. Bonjour tout le monde. Alors en complément de ce que a partagé Didier, je vais vous proposer donc dans Josué chapitre 3. Donc c'est la traversée du Jourdain et je vais faire un peu quelques apartés et donner des explications. Donc Josué chapitre 3, la traversée du Jourdain. Tôt le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent Shittim et descendirent au bord du Jourdain. Ils s'installèrent là en attendant le moment de le traverser. Au bout de 3 jours, les responsables du peuple parcoururent le camp et donnèrent les instructions suivantes aux Israélites. Dès que vous verrez les prêtres, les Lévites, emporter le coffre de l'Alliance du Seigneur, votre Dieu, quittez cet endroit et suivez-le. Donc juste une petite aparté, ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est que là on parle donc du coffre de l'Alliance et que maintenant sous la nouvelle loi, c'est que nous avons le Seigneur en nous en fait. Quel honneur de pouvoir dire que nous avons Dieu en nous et faisons attention et quel privilège. Donc c'est aussi envers ça, ayons aussi l'honnêteté quand nous prenons la Sainte Cène, moi le premier, voilà, de se mettre aussi en règle. Verset 4. Toutefois, n'allez pas trop près du coffre, tenez-vous toujours à une distance d'environ 1 kilomètre de lui. De cette façon, vous saurez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par là auparavant. Donc là aussi, je peux faire un peu un aparté avec aussi Naomi. Quelle grâce aussi de savoir que le Seigneur a préparé des chemins aussi de grâce pour nous, des projets de bonheur à l'avance. Verset 5. Josué dit au peuple, « Préparez-vous pour être entièrement au Seigneur, car demain, il va accomplir des actions extraordinaires au milieu de vous. » Amen, hein. C'est des promesses là qu'il nous dit, hein. Quelle grâce. Verset 6. « Le jour suivant, Josué donna cet ordre aux prêtres, « Portez le coffre de l'Alliance et marchez à la tête du peuple. » C'est ce qu'ils firent. Le Seigneur dit à Josué, « À partir d'aujourd'hui, je vais affermir ton autorité aux yeux de tous les Israélites. Ils sauront que je suis avec toi, avec nous tous, hein, comme j'ai été avec Moïse. Pour ta part, ordonne ceci aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Arrêtez-vous dans l'eau du Jourdain dès que vous y aurez pénétré. » Donc là, il y a une forme aussi de confiance envers le Seigneur, hein, parce que là... Rentrer dans l'eau, on ne connaît pas la situation, faire confiance. On peut aussi parler de la sanctification dans notre quotidien. Verset 9. Alors Josué s'adressa aux Israélites. « Approchez-vous, leur dit-il, et écoutez ce que déclare le Seigneur votre Dieu. Vous allez être convaincus que le Dieu vivant est au milieu de vous, de nous, et qu'il dépossédera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périsites, les Guigarchites, les Amorites et les Jébusiens, nos ennemis aussi du quotidien. » Verset 11. « En effet, le coffre de l'Alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Choisissez parmi vous 12 hommes de tribu d'Israël, un par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre du Seigneur de toute la terre poseront les pieds dans le Jourdain, le cours de la rivière sera coupé. En amont, l'eau sera arrêtée comme par une digue. » Comme a dit tout à l'heure Didier, c'est vrai que par l'action d'un bout de bois, par l'action d'une parole, le Seigneur fait des miracles, mais il y a aussi notre part personnelle. Verset 14. « Le peuple quitta le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant le peuple. C'était l'époque de la moisson, pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent les pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler, l'eau fut arrêtée comme par une digue, loin en amont, à Adam, ville des environs de Sartan, en aval. L'eau qui s'écoule vers la mer morte disparut complètement. Le peuple traversa alors le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance du Seigneur restèrent dans le lit asséché de la rivière pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Amen. Je vais pouvoir aussi prier. Merci Seigneur, quel privilège Seigneur de que tu es le Seigneur, la loi, la parole Seigneur, que tu vives en nous. Quel honneur aussi de pouvoir avoir la grâce de te louer, de t'honorer Seigneur, par nos membres Seigneur. Quelle grâce aussi de pouvoir, comme il a été chanté tout à l'heure, de nous faire confiance à nous qui sommes pécheurs. Tu aurais pu Seigneur donner cette opportunité Seigneur à cette céleste phalange Seigneur, à ces anges, mais tu nous as choisis Seigneur. Aide-nous Seigneur au quotidien, au jour le jour à nous sanctifier, à te faire honneur, à vivre dans la sainteté. Merci pour les projets de bonheur que tu as fait pour nous. Merci pour Seigneur, pour cette maison Seigneur qui te sert d'un cœur fidèle et pur. Je te prie Seigneur de bénir aussi mon prochain Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas pu venir aussi aujourd'hui, nous avons une pensée pour eux. Nous sommes unis Seigneur spirituellement et nous te les remettons. Amen.